Chapitre 12 La canne de Frédéric Larsan. Je ne me disposais à quitter le château que vers 6 heures du soir, emportant l'article que mon ami avait écrit à la hâte dans le petit salon que M. Robert Darzac avait fait mettre à notre disposition. Le reporter devait coucher au château, usant de cette inexplicable hospitalité que lui avait offerte M. Robert Darzac, sur qui M. Stangerson, en ces tristes moments, se reposait de tous les tracas domestiques. Néanmoins, il voulut m'accompagner jusqu'à la gare d'Épinay. En traversant le parc, il me dit « Oh, Frédéric Larsan est réellement très fort et n'a pas volé sa réputation. Vous savez comment il est arrivé à retrouver les souliers du père Jacques ? Près de l'endroit où nous avons remarqué les traces des pas élégants, et la disparition des empreintes des gros souliers, un creux rectangulaire dans la terre fraîche, attestait qu'il y avait eu là récemment une pierre. Larsan rechercha cette pierre sans la trouver, et imagina tout de suite qu'elle avait servi à l'assassin à maintenir au fond de l'étang les souliers dont l'homme voulait se débarrasser. Le calcul de Fred était excellent, et le succès de ses recherches l'a prouvé. Oui, ceci m'avait échappé. Mais il est juste de dire que mon esprit était déjà parti par ailleurs, car par le trop grand nombre de faux témoignages de son passage laissé par l'assassin et par la mesure des pas du père Jacques, que j'ai établi sans qu'il s'en doutât sur le plancher de la chambre jaune, la preuve était déjà faite à mes yeux que l'assassin avait voulu détourner le soupçon du côté de ce vieux serviteur. C'est ce qui m'a permis de dire à celui-ci, si vous vous le rappelez, que puisque l'on avait trouvé un béret dans cette chambre fatale, il devait ressembler au sien et de lui faire une description du mouchoir en tout point semblable à celui dont je l'avais vu se servir. Larsan et moi, nous sommes d'accord jusque-là, mais nous ne le sommes plus à partir de là, et cela va être terrible. Car il marche de bonne foi une erreur qu'il va me falloir combattre avec rien. » Je fus surpris de l'accent profondément grave dont mon jeune ami prononça ces dernières paroles. Il répéta encore, « Oui, terrible, terrible, mais... Oh, est-ce vraiment de combattre avec rien que de combattre avec l'idée ?» À ce moment, nous passions derrière le château. La nuit était tombée, une fenêtre au premier étage était entr'ouverte. Une faible lueur en venait, ainsi que quelques bruits qui fixèrent notre attention. Nous avançâmes jusqu'à ce que nous ayons atteint l'encoignure d'une porte qui se trouvait sous la fenêtre. Rouletabille me fit comprendre d'un mot prononcé à voix basse que cette fenêtre donnait sur la chambre de Mademoiselle Stangerson. Les bruits qui nous avaient arrêtés se turent, puis reprirent un instant. C'étaient des gémissements étouffés. Nous ne pouvions saisir que 3 mots qui nous arrivaient distinctement. « Mon pauvre Robert !» Rouletabille me mit la main sur l'épaule, se pencha à mon oreille. « Ah, si nous pouvions savoir, me dit-il, ce qui se dit dans cette chambre !» Mon enquête serait vite terminée. » Il regarda autour de lui. L'ombre du soir nous enveloppait. Nous ne voyions guère plus loin que l'étroite pelouse bordée d'arbres qui s'étendait derrière le château. Les gémissements s'étaient tus à nouveau. « Puisqu'on ne peut pas entendre, continua Rouletabille, on va au moins essayer de voir. » Et il m'entraîna, en me faisant signe d'étouffer le bruit de mes pas, au-delà de la pelouse, jusqu'au tronc pâle d'un fort bouleau dont on apercevait la ligne blanche dans les ténèbres. Ce bouleau s'élevait juste en face de la fenêtre qui nous intéressait, et ses premières branches étaient à peu près à la hauteur du premier étage du château. Du haut de ces branches, on pouvait certainement voir ce qui se passait dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Et telle était bien la pensée de Rouletabille, car, m'ayant ordonné de me tenir quoi, Il embrassa le tronc de ses jeunes bras vigoureux et grimpa. Il se perdit bientôt dans les branches, puis il y eut un grand silence. Là-bas, en face de moi, la fenêtre ouverte était toujours éclairée. Je ne vis passer sur cette lueur aucune ombre. L'arbre au-dessus de moi restait silencieux. J'attendais. Tout à coup, mon oreille perçut dans l'arbre ces mots. Après vous, je vous en prie. On dialoguait là-haut, au-dessus de ma tête. On se faisait des politesses. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir apparaître, sur la colonne lisse de l'arbre, deux formes humaines qui bientôt touchèrent le sol. Rouletabille était monté là-haut tout seul et redescendait deux. Bonjour, monsieur Sinclair. C'était Frédéric Larsan. Le policier occupait déjà le poste d'observation quand mon jeune ami croyait y arriver solitaire. Ni l'un ni l'autre, du reste, ne s'occupèrent de mon étonnement. Je crus comprendre qu'ils avaient assisté du haut de leur observatoire à une scène pleine de tendresse et de désespoir entre mademoiselle Stangerson étendue dans son lit, monsieur Darzac à genoux à son chevet. Et déjà, chacun semblait en tirer, fort prudemment, des conclusions différentes. Il était facile de deviner que cette scène avait produit un gros effet dans l'esprit de Rouletabille en faveur de M. Robert Darzac. Cependant que, dans celui de Larsan, elle n'attestait qu'une parfaite hypocrisie servie par un art supérieur chez le fiancé de Mlle Stangerson. Comme nous arrivions à la grille du parc, Larsan nous arrêta. « Oh, ma canne ! » s'écria-t-il. « Vous avez oublié votre canne ?» demanda Rouletabille. « Oui, » répondit le policier, « je l'ai laissée là-bas, auprès de l'arbre. » Et il nous quitta, disant qu'il allait nous rejoindre tout de suite. « Avez-vous remarqué la canne de Frédéric Larsan ?» me demanda le reporter, quand nous fûmes seuls. « C'est une canne toute neuve, que je ne lui ai jamais vue. Il a l'air d'y tenir beaucoup, il ne la quitte pas. » On dirait qu'elle a peur qu'il ne soit tombé dans des mains étrangères. Avant ce jour, je n'ai jamais vu de canne à Frédéric Larsan. Où a-t-il trouvé cette canne-là? Ce n'est pas naturel qu'un homme qui ne porte jamais de canne ne fasse plus un pas sans canne au lendemain du crime de Glandier. Le jour de notre arrivée au château, quand il nous eut aperçus, il remit sa montre dans sa poche et ramassa par terre sa canne, geste auquel j'eus peut-être tort de m'attacher aucune importance. Nous étions maintenant hors du parc. Rouletabille ne disait rien. Sa pensée, certainement, n'avait pas quitté la canne de Frédéric Larsan. J'en eus la preuve quand, en descendant la côte d'Épinay, il me dit « Frédéric Larsan est arrivé au Glandier avant moi. » Il a commencé son enquête avant moi. Il a eu le temps de savoir des choses que je ne sais pas et a pu trouver des choses que je ne sais pas. Où a-t-il trouvé cette canne-là? Et il ajouta, « Il est probable que son soupçon, plus que son soupçon, son raisonnement, qui va aussi directement à Robert Darzac, doit être servi par quelque chose de palpable qu'il palpe, lui, et que je ne palpe pas, moi. Serait-ce cette canne? Mais où diable a-t-il pu trouver cette canne-là? » À Épinay, il fallut attendre le train 20 minutes. Nous entrâmes dans un cabaret. Presque aussitôt derrière nous, la porte se rouvrait et Frédéric Larsan faisait son apparition, brandissant la fameuse canne. « Ha ! Je l'ai retrouvée !» nous dit-il en riant. Tous trois, nous nous assîmes à une table. Rouletabille ne quittait pas des yeux la canne. Il était si absorbé qu'il ne vit pas un signe d'intelligence que Larsan adressait à un employé du chemin de fer, un tout jeune homme dont le menton s'ornait d'une petite barbiche blonde mal peignée. L'employé se leva, paya sa consommation, salua et sortit. Je n'aurais moi-même attaché aucune importance à ce signe s'il ne m'était revenu à la mémoire quelques mois plus tard, lors de la réapparition de la barbiche blonde à l'une des minutes les plus tragiques de ce récit. J'appris alors que la barbiche blonde était un agent de Larsan, chargé par lui de surveiller les allées et venues des voyageurs en gare d'Épinay-sur-Orge, car Larsan ne négligeait rien de ce qu'il croyait pouvoir lui être utile. Je reportai les yeux sur Rouletabille. « Ah, ça, monsieur Fred, disait-il, depuis quand avez-vous donc eu cette canne ? Je vous ai toujours vu vous promener, moi, les mains dans les poches. » « C'est un cadeau qu'on m'a fait, répondit le policier. Bon, il n'y a pas longtemps, insista Rouletabille. Non, on me l'a offerte à Londres. Ah oui, c'est vrai, vous revenez de Londres, monsieur Fred. On peut la voir, votre canne ? Oh, mais comment donc ? Fred passa la canne à Rouletabille. C'était une grande canne bambou jaune à bec de corbin ornée d'une bague d'or. Rouletabille l'examinait minutieusement. « Eh bien, fit-il en relevant une tête gouailleuse, on vous a offert à Londres une canne de France. »« C'est possible, fit Fred imperturbable. Ben, lisez la marque ici en lettres minuscules. « Cassette 6 bis opéra. » »« On fait bien blanchir son âge à Londres, » dit Fred. « Les Anglais peuvent bien acheter leurs cannes à Paris. » Rouletabille rendit la canne. Quand il lui mit dans mon compartiment, il me dit « Vous avez retenu l'adresse ?»« Oui, Cassette 6 bis opéra. » « Comptez sur moi, vous recevrez un mot demain matin. » Le soir même, en effet, à Paris, je voyais M. Cassette, marchand de cannes et de parapluies, et j'écrivais à mon ami « Un homme répondant à s'y méprendre au signalement de M. Robert Darzac, même taille, légèrement voûtée, même collier de barbe, par-dessus mastic, chapeau melon, est venu acheter une canne pareille à celle qui nous intéresse le soir même du crime, vers 8 heures. Monsieur Cassette n'en a point vendu de semblable depuis 2 ans. La canne de Fred est neuve. Il s'agit donc bien de celle qu'il a entre les mains. Ce n'est pas lui qui l'a achetée, puisqu'il se trouvait alors à Londres. Comme vous, je pense qu'il l'a trouvé quelque part autour de M. Robert Darzac. Mais alors, si comme vous le prétendez, l'assassin était dans la chambre jaune depuis 5 heures ou même 6 heures, comme le drame n'a eu lieu que vers minuit, l'achat de cette canne procure un alibi irréfutable à M. Robert Darzac. Chapitre 13. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. 8 jours après les événements que je viens de raconter, exactement le 2 novembre, je recevais à mon domicile à Paris un télégramme ainsi libellé. « Venez au Glandier par premier train. Apportez revolver, amitié, Rouletabille. » Je vous ai déjà dit, je crois, qu'à cette époque, jeune avocat stagiaire et à peu près dépourvu de cause, je fréquentais le palais plutôt pour me familiariser avec mes devoirs professionnels que pour défendre la veuve et l'orphelin. Je ne pouvais donc m'étonner que Rouletabille disposât ainsi de mon temps. Et il savait du reste combien je m'intéressais à ses aventures journalistiques en général et surtout à l'affaire du Glandier. Je n'avais eu de nouvelles de celle-ci depuis 8 jours, que par les innombrables racontars des journaux et par quelques notes très brèves de Rouletabille dans l'époque. Ces notes avaient divulgué le coup de l'os de mouton et nous avaient appris qu'à l'analyse, les marques laissées sur l'os de mouton s'étaient révélées de sang humain. Il y avait là des traces fraîches du sang de Mademoiselle Stangerson. Des traces anciennes provenaient d'autres crimes pouvant remonter à plusieurs années. Vous pensez si l'affaire défrayait la presse du monde entier? Jamais illustre crime n'avait intrigué davantage les esprits. Il me semblait bien, cependant, que l'instruction n'avançait guère. Aussi eussé-je été très heureux de l'invitation que me faisait mon ami de le venir revoir ou rejoindre au Glandier. Si la dépêche n'avait contenu ces mots, apporter revolver au pluriel. Voilà qui m'intriguait fort. Si Rouletabille me télégraphiait d'apporter des revolvers, c'est qu'il prévoyait qu'on aurait l'occasion de s'en servir. Oh, je l'avoue sans honte, je ne suis point un héros. Mais quoi ? Il s'agissait ce jour-là d'un ami sûrement dans l'embarras qui m'appelait sans doute à son aide. Je n'hésitais guère. Et après avoir constaté que le seul revolver que je possédais était bien armé, je me dirigeais vers la gare d'Orléans. En route, je pensais qu'un revolver ne faisait qu'une arme et que la dépêche de Rouletabille réclamait revolver au pluriel. J'entrais chez un armurier et achetais une petite arme excellente que je me faisais une joie d'offrir à mon ami. J'espérais trouver Rouletabille à la gare d'Épinay, mais il n'y était point. Cependant, un cabriolet m'attendait, je fus bientôt au Glandier. Personne à la grille. Ce n'est que sur le seuil même du château que j'aperçus le jeune homme. Il me saluait d'un geste amical et me recevait aussitôt dans ses bras, me demandant avec effusion des nouvelles de ma santé. Quand nous fûmes dans le petit vieux salon dont j'ai parlé, Rouletabille me fit asseoir et me dit tout de suite « ça va mal. Qu'est-ce qui va mal ? Tout !» Il se rapprocha de moi et me confia à l'oreille « Frédéric Larsan marche à fond contre M. Robert Darzac. » Ceci n'était point pour m'étonner depuis que j'avais vu le fiancé de Mlle Stangerson pâlir devant la trace de ses pas. Cependant, j'observais tout de suite, « Eh bien, et la canne ?»« Oh, la canne, elle est toujours entre les mains de Frédéric Larsan, qui ne la quitte pas. » »« Mais ne fournit-elle pas un alibi à M. Robert Darzac ?»« Pas le moins du monde. » M. Darzac, interrogé par moi en douceur, ni avoir acheté ce soir-là, ni aucun autre soir, une canne chez Cassette. Quoi qu'il en soit, fit Rouletabille, je jurerais de rien, car M. Darzac a le si étrange silence qu'on ne sait exactement ce qu'il faut penser de ce qu'il dit. Dans l'esprit de Frédéric Larsan, cette canne doit être une bien précieuse canne, une canne à conviction, mais de quelle façon ? Car, toujours à cause de l'heure de l'achat, elle ne pouvait se trouver entre les mains de l'assassin. Bon, l'heure ne gênera pas Larsan. Il n'est pas forcé d'adopter mon système qui commence par introduire l'assassin dans la chambre jaune entre 5 et 6. Qu'est-ce qui l'empêche, lui, de l'y faire pénétrer entre 10h et 11h du soir ? À ce moment, justement, M. et Mlle Stangerson, aidés du père Jacques, ont procédé à une intéressante expérience de chimie dans cette partie du laboratoire occupée par les fourneaux. Larsan dira que l'assassin s'est glissé derrière eux, tout invraisemblable que cela paraisse. Il l'a déjà fait entendre au juge d'instruction. Quand on le considère de près, ce raisonnement est absurde, attendu que le familier, si familier il y a, devait savoir que le professeur allait bientôt quitter le pavillon. Et il y allait de sa sécurité, à lui familier, de remettre ses opérations après ce départ. Pourquoi aurait-il risqué de traverser le laboratoire pendant que le professeur s'y trouvait? Et puis, quand le familier se serait-il introduit dans le pavillon? Ah, autant de points à élucider avant d'admettre l'imagination de Larsan. Oh, je n'y perdrai pas mon temps, quant à moi, car j'ai un système irréfutable qui ne me permet point de me préoccuper de cette imagination-là. Seulement, comme je suis obligé momentanément de me taire, et que Larsan, quelquefois, parle, il se pourrait que tout finit par s'expliquer contre M. Darzac, si je n'étais pas là, ajouta le jeune homme avec orgueil. Car il y a contre ce monsieur Darzac d'autres signes extérieurs, autrement terribles, que cette histoire de Cannes, qui reste pour moi incompréhensible, d'autant plus incompréhensible que Larsan ne se gêne pas pour se montrer devant monsieur Darzac avec cette canne, qui aurait appartenu à monsieur Darzac lui-même. Je comprends beaucoup de choses dans le système de Larsan, mais je ne comprends pas encore la canne. Frédéric Larsan est toujours au château? Oui, il ne l'a guère quitté. Il y couche, comme moi, sur la prière de M. Stangerson. M. Stangerson a fait pour lui ce que M. Robert Darzac a fait pour moi. Accusé par Frédéric Larsan de connaître l'assassin et d'avoir permis sa fuite, M. Stangerson a tenu à faciliter à son accusateur tous les moyens d'arriver à la découverte de la vérité. Ainsi, M. Robert Darzac agit-il envers moi. Mais vous êtes, vous, persuadé de l'innocence de M. Robert Darzac? J'ai cru un instant à la possibilité de sa culpabilité. Ce fut à l'heure même où nous arrivions ici pour la première fois. Ah, le moment est venu de vous raconter ce qui s'est passé entre M. Darzac et moi. Ici, Rouletabille s'interrompit et me demanda si j'avais apporté les armes. Je lui montrai les deux revolvers. Il les examina, dit « Oh, c'est parfait !» et me les rendit. « En aurons-nous besoin ?» demandai-je. « Oui, sans doute ce soir. Nous passons la nuit ici, cela ne vous ennuie pas ?» Au contraire, fis-je avec une grimace qui entraîna le rire de Rouletabille. Allons, reprit-il, ce n'est pas le moment de rire. Parlons sérieusement. Vous vous rappelez cette phrase qui a été le « Sésame, ouvre-toi » de ce château plein de mystères ? Oh oui, fis-je parfaitement, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. C'est encore cette phrase-là, à moitié roussie, que vous avez retrouvée sur un papier dans les charbons du laboratoire. Oui, et en bas de ce papier, la flamme avait respecté cette date 23 octobre. Souvenez-vous de cette date qui est très importante. Je vais vous dire maintenant ce qu'il en est de cette phrase saugrenue. Je ne sais si vous savez que l'avant-veille du crime, c'est-à-dire le 23, monsieur et mademoiselle Stangerson sont allés à une réception à l'Élysée. Ils ont même assisté au dîner, je crois bien. Toujours est-il qu'ils sont restés à la réception, puisque je les y ai vus. J'y étais, moi, par devoir professionnel. Je devais interviewer un de ces savants de l'Académie de Philadelphie que l'on fêtait ce jour-là. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais vu ni monsieur ni mademoiselle Stangerson. J'étais assis dans le salon qui précède le salon des ambassadeurs, et là, d'avoir été bousculé par tant de nobles personnages, je me laissais aller à une vague rêverie quand je sentis passer le parfum de la dame en noir. Vous me demanderez, qu'est-ce que le parfum de la dame en noir? Oh, qu'il vous suffise de savoir que c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il était celui d'une dame toujours habillée de noir, qui m'a marqué quelque maternelle bonté dans ma première jeunesse. La dame, qui ce jour-là était discrètement imprégnée du parfum de la dame en noir, était habillée de blanc. Elle était merveilleusement belle, je ne pus m'empêcher de me lever, de la suivre, elle et son parfum. Un homme, un vieillard, donnait le bras à cette beauté. Chacun se détournait sur leur passage, et j'entendis que l'on murmurait « C'est le professeur Stangerson et sa fille !» C'est ainsi que j'appris qui je suivais. Ils rencontrèrent M. Robert Darzac, que je connaissais de vue. Le professeur Stangerson, abordé par l'un des savants américains, Arthur William Rance, s'assit dans un fauteuil de la grande galerie, et M. Robert Darzac entraîna Mlle Stangerson dans les serres. Je suivais toujours. Il faisait ce soir-là un temps très doux. Les portes sur le jardin étaient ouvertes. Mlle Stangerson jeta un fichu léger sur ses épaules. Je vis bien que c'était elle qui priait M. Darzac de pénétrer avec elle dans la quasi-solitude du jardin. Je suivis encore, intéressé par l'agitation que marquait alors M. Robert Darzac. Il se glissait maintenant à pas lents le long du mur qui longe l'avenue Marigny. Je pris par l'allée centrale. Je marchais parallèlement à mes deux personnages. Et puis je coupais à travers la pelouse pour les croiser. La nuit était obscure, l'herbe étouffait mes pas. Ils étaient arrêtés dans la clarté vacillante d'un bec de gaz et semblaient penchés tous les deux sur un papier que tenait Mlle Stangerson, lire quelque chose qui les intéressait fort. Je m'arrêtais, moi aussi. J'étais entouré d'ombre et de silence. Ils ne m'aperçurent point, et j'entendis distinctement Mlle Stangerson qui répétait, en repliant le papier, « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Et ce fut dit, sur un ton à la fois si railleur et si désespéré, et fut suivi d'un éclat de rire si nerveux que je crois bien que cette phrase me restera toujours dans l'oreille. Mais une autre phrase encore fut prononcée, celle-ci par M. Robert Darzac. Me faudra-t-il donc, pour vous avoir, commettre un crime ? M. Robert Darzac était dans une agitation extraordinaire. Il prit la main de Mlle Stangerson, la porta longuement à ses lèvres, et je pensais au mouvement de ses épaules qu'il pleurait. Puis ils s'éloignèrent. Quand j'arrivai dans la grande galerie, continua Rouletabille, je ne vis plus M. Robert Darzac, et je ne devais plus le revoir qu'au glandier après le crime. Mais j'aperçus Mlle Stangerson, M. Stangerson et les délégués de Philadelphie. Mlle Stangerson était près d'Arthur Rance. Celui-ci lui parlait avec animation, et les yeux de l'Américain, pendant cette conversation, brillaient d'un singulier éclat. Je crois bien que Mlle Stangerson n'écoutait même pas ce que lui disait Arthur Rance, et son visage exprimait une indifférence parfaite. Arthur William Rance est un homme sanguin, au visage couperosé. Il doit aimer le gin. Quand M. et Mlle Stangerson furent partis, il se dirigea vers le buffet et ne le quitta plus. Je l'y rejoignis et lui rendis quelques services dans cette cohue. Il me remercia et m'apprit qu'il repartait pour l'Amérique 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 26 le lendemain du crime. Je lui parlais de Philadelphie. Il me dit qu'il habitait cette ville depuis 25 ans et que c'est là qu'il avait connu l'illustre professeur Stangerson et sa fille. Là-dessus, il reprit du champagne et je crus qu'il ne s'arrêterait jamais de boire. Je le quittai quand il fut à peu près ivre. Telle a été ma soirée, mon cher ami. Je ne sais pas quelle sorte de précision la double image de M. Robert Darzac et de Mlle Stangerson ne me quitta point de la nuit, et je vous laisse à penser l'effet que me produisit la nouvelle de l'assassinat de Mlle Stangerson. Comment ne pas me souvenir de ces mots ? Me faudra-t-il, pour vous avoir, commettre un crime ? Ce n'est cependant point cette phrase que je dis à M. Robert Darzac quand nous le rencontrâmes au Glandier. Celle où il est question du presbytère et du jardin éclatant que Mlle Stangerson semblait avoir lu sur le papier qu'elle tenait à la main suffit pour nous faire ouvrir toutes grandes les portes du château. Croyais-je à ce moment que M. Robert Darzac était l'assassin ? Non ! Oh, je ne pense pas l'avoir tout à fait cru. À ce moment-là, je ne pensais sérieusement rien. J'étais si peu documenté. Mais j'avais besoin qu'il me prouvât tout de suite qu'il n'était pas blessé à la main. Et quand nous fûmes seuls tous les deux, je lui contai ce que le hasard m'avait fait surprendre de sa conversation dans les jardins de l'Élysée avec Mlle Stangerson. Et quand je lui eus dit que j'avais entendu ces mots « Me faudra-t-il, pour vous avoir, commettre un crime ?» il fut tout à fait troublé, mais beaucoup moins certainement qu'il ne l'avait été par la phrase du presbytère. Ce qui le jeta dans une véritable consternation, ce fut d'apprendre de ma bouche que le jour où il allait se rencontrer à l'Élysée avec Mlle Stangerson, celle-ci était allée dans l'après-midi au bureau de poste 40 chercher une lettre qui était peut-être celle qu'ils avaient lue tous les deux dans les jardins de l'Élysée et qui se terminait par ces mots « Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. » Cette hypothèse me fut confirmée du reste depuis par la découverte que je fis, vous vous en souvenez, dans les charbons du laboratoire, d'un morceau de cette lettre qui portait la date du 23 octobre. La lettre avait été écrite et retirée du bureau tout le même jour. Il ne fait point de doute qu'en rentrant de l'Élysée, la nuit même, Mlle Stangerson a voulu brûler ce papier compromettant. C'est en vain que M. Robert Darzac nia que cette lettre eût un rapport quelconque avec le crime. Je lui dis que dans une affaire aussi mystérieuse, il n'avait pas le droit de cacher à la justice l'incident de la lettre. Que j'étais persuadé, moi, que celle-ci avait une importance considérable et que le ton désespéré avec lequel Mlle Stangerson avait prononcé la phrase fatidique, que ses pleurs à lui, Robert Darzac, et que cette menace d'un crime qu'il avait proféré à la suite de la lecture de la lettre ne me permettait pas d'en douter. Robert Darzac était de plus en plus agité. Je résolus de profiter de mon avantage. Vous deviez vous marier, monsieur, fis-je négligemment, sans plus regarder mon interlocuteur. Et tout d'un coup, ce mariage devient impossible à cause de l'auteur de cette lettre, puisque, aussitôt la lecture de la lettre, vous parlez d'un crime nécessaire pour avoir Mlle Stangerson. Il y a donc quelqu'un entre vous et Mlle Stangerson, quelqu'un qui lui défend de se marier, quelqu'un qui la tue avant qu'elle ne se marie. Et je terminais ce petit discours par ces mots. Maintenant, monsieur, vous n'avez plus qu'à me confier le nom de l'assassin. J'avais dû, sans m'en douter, dire des choses formidables. Quand je relevais les yeux sur Robert Darzac, je vis un visage décomposé, un front en sueur, des yeux d'effroi. « Monsieur, me dit-il, je vais vous demander une chose qui va peut-être vous paraître insensée, mais en échange de quoi je donnerai ma vie. Il ne faut pas parler devant les magistrats de ce que vous avez vu et entendu dans les jardins de l'Élysée, ni devant les magistrats, ni devant personne au monde. Je vous jure que je suis innocent, et je sais, et je sens que vous me croyez, mais j'aimerais mieux passer pour coupable que de voir les soupçons de la justice s'égarer sur cette phrase. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Il faut que la justice ignore cette phrase. Toute cette affaire vous appartient, monsieur, je vous la donne, mais oubliez la soirée de l'Élysée. Il y aura pour vous 100 autres chemins que celui-là qui vous conduiront à la découverte du criminel. Je vous les ouvrirai. Je vous aiderai. Voulez-vous vous installer ici? Parler ici en maître? Manger, dormir ici? Surveiller mes actes et les actes de tous? Vous serez au Glandier comme si vous en étiez le maître, monsieur, mais oubliez la soirée de l'Élysée. » Rouletabille, ici, s'arrêta pour souffler un peu. Je comprenais maintenant l'attitude inexplicable de M. Robert Darzac vis-à-vis de mon ami et la facilité avec laquelle celui-ci avait pu s'installer sur les lieux du crime. Tout ce que je venais d'apprendre ne pouvait qu'exciter ma curiosité. Je demandais à Rouletabille de la satisfaire encore. Mais que s'était-il passé au Glandier depuis 8 jours? Mon ami ne m'avait-il pas dit qu'il y avait maintenant contre M. Darzac des signes extérieurs autrement terribles que celui de la canne trouvée par Larsan? Tout semble se tourner contre lui, me répondit mon ami, et la situation devient extrêmement grave. M. Robert Darzac semble point s'en préoccuper outre mesure. Il a tort. Mais rien ne l'intéresse que la santé de Mlle Stangerson, qui allait s'améliorant tous les jours. Quand est survenu un événement plus mystérieux encore que le mystère de la chambre jaune? « Ah, ce n'est pas possible !» écriai-je. « Et quel événement peut être plus mystérieux que le mystère de la chambre jaune ?»« Revenons d'abord à M. Robert Darzac, » fit Rouletabille en me calmant. « Je vous disais que tout se tourne contre lui. Les pas élégants relevés par Frédéric Larsan paraissent bien être les pas du fiancé de Mlle Stangerson. » L'empreinte de la bicyclette peut être l'empreinte de sa bicyclette. La chose a été contrôlée. Depuis qu'il avait cette bicyclette, il la laissait toujours au château. Pourquoi l'avoir emportée à Paris justement à ce moment-là? Est-ce qu'il ne devait plus revenir au château? Est-ce que la rupture de son mariage devait entraîner la rupture de ses relations avec les Stangerson? Chacun des intéressés affirme que ces relations devaient continuer. Alors, Frédéric Larsan, lui, croit que tout était rompu. Depuis le jour où Robert Darzac a accompagné Mlle Stangerson au grand magasin de la Louve, jusqu'au lendemain du crime, l'ex-fiancé n'est point revenu au Glandier. Ce souvenir que Mlle Stangerson a perdu son réticule et la clé à tête de cuivre quand elle était en compagnie de M. Robert Darzac. Depuis ce jour jusqu'à la soirée de l'Élysée, le professeur en Sorbonne et Mlle Stangerson ne se sont point vus. Mais ils se sont peut-être écrits. Mlle Stangerson est allée chercher une lettre post-restante au bureau 40. Lettre que Frédéric Larsan croit de Robert Darzac. Car Frédéric Larsan, qui ne sait rien naturellement de ce qui s'est passé à l'Élysée, est amené à penser que c'est Robert Darzac lui-même qui a volé le réticule et la clé dans le dessein de forcer la volonté de Mademoiselle Stangerson en s'appropriant les papiers les plus précieux du père, papiers qu'il aurait restitués sous condition de mariage. Tout cela serait d'une hypothèse bien douteuse et presque absurde, comme le disait le grand Fred lui-même, s'il n'y avait pas encore autre chose, et autre chose de beaucoup plus grave. D'abord, chose bizarre et que je ne parviens pas à m'expliquer, ce serait M. Darzac en personne qui, le 24, serait allé demander la lettre au bureau de poste, lettre qui avait été déjà retirée la veille par Mlle Stangerson. La description de l'homme qui s'est présenté au guichet répond point par point au signalement de M. Robert Darzac. Celui-ci, aux questions qui lui furent posées à titre de simple renseignement, par le juge d'instruction, nie qu'il soit allé au bureau de poste. Et moi, je crois, M. Robert Darzac, car en admettant même que la lettre ait été écrite par lui, ce que je ne pense pas, il savait que Mlle Stangerson l'avait retirée puisqu'il la lui avait vue, cette lettre, entre les mains, dans les jardins de l'Élysée. Ce n'est donc pas lui qui s'est présenté le lendemain 24 au bureau 40 pour demander une lettre qu'il savait n'être plus là. Pour moi, c'est quelqu'un qui lui ressemblait étrangement, et c'est bien le voleur du réticule qui, dans cette lettre, devait demander quelque chose à la propriétaire du réticule, à Mademoiselle Stangerson, quelque chose qu'il ne vit pas venir. Il dut en être stupéfait, fut amené à se demander si la lettre qu'elle avait expédiée avec cette inscription sur l'enveloppe M.A.T.H.S.N. avait été retirée, d'où sa démarche au bureau de poste et l'insistance avec laquelle il réclame la lettre. Puis il s'en va furieux. La lettre a été retirée, pourtant ce qu'il demandait ne lui a pas été accordé. Que demandait-il ? Nul ne le sait que Mademoiselle Stangerson. Toujours est-il que le lendemain, on apprenait que Mademoiselle Stangerson avait été quasi assassinée dans la nuit et que je découvrais le surlendemain, moi, que le professeur avait été volé du même coup grâce à cette clé, objet de la lettre poste-restante. Ainsi, il semble bien que l'homme qui est venu au bureau de poste doit être l'assassin. Et tout ce raisonnement, des plus logiques en somme, sur les raisons de la démarche de l'homme au bureau de poste, Frédéric Larsan se l'est tenu, mais en l'appliquant à Robert Darzac. Vous pensez bien que le juge d'instruction et que Larsan et que moi-même, nous avons tout fait pour avoir au bureau de poste des détails précis sur le singulier personnage du 24 octobre. Mais on n'a pu savoir d'où il venait, ni où il s'en est allé. En dehors de cette description qui le fait ressembler à M. Robert Darzac, rien. J'ai fait annoncer dans les plus grands journaux une forte récompense est promise au cocher qui a conduit un client au bureau de poste 40 dans la matinée du 24 octobre vers les 10 heures. S'adresser à la rédaction de l'époque et demander M. R. Ça n'a rien donné. En somme, cet homme est peut-être venu à pied, mais puisqu'il était pressé, c'était une chance à courir qu'il fût venu en voiture. Je n'ai pas, dans ma poche, note aux journaux, donné la description de l'homme pour que tous les cochers qui pouvaient avoir vers cette heure-là conduit un client au bureau 40 vinssent à moi. Il n'en est pas venu un seul. Et je me suis demandé, nuit et jour, mais quel est donc cet homme qui ressemble aussi étrangement à M. Robert Darzac et que je retrouve achetant la canne tombée entre les mains de Frédéric Larsan. Le plus grave de tout est que M. Darzac, qui avait affaire à la même heure, à l'heure où son sosie se présentait au bureau de poste, un cours à la Sorbonne ne l'a pas fait. Un de ses amis le remplaçait. Et quand on l'interroge sur l'emploi de son temps, il répond qu'il est allé se promener au bois de Boulogne. Qu'est-ce que vous pensez de ce professeur qui se fait remplacer à son cours pour aller se promener au bois de Boulogne? Enfin, il faut que vous sachiez que si M. Robert Darzac avoue s'être allé promener au bois de Boulogne dans la matinée du 24, il ne peut plus donner du tout l'emploi de son temps dans la nuit du 24 au 25. Il a répondu fort paisiblement à Frédéric Larsan, qui lui demandait son renseignement, que ce qu'il faisait de son temps à Paris ne regardait que lui. Sur quoi Frédéric Larsan a juré tout haut qu'il découvrirait bien, lui, sans l'aide de personne, l'emploi de ce temps. Tout cela semble donner quelque corps aux hypothèses du grand Fred. D'autant plus que le fait de Robert Darzac se trouvant dans la chambre jaune pourrait venir corroborer l'explication du policier sur la façon dont l'assassin se serait enfui. M. Stangerson aurait laissé passer pour éviter un effroyable scandale. C'est du reste cette hypothèse que je crois fausse, qui égara Frédéric Larsan. Et ceci ne serait point pour me déplaire. Mais il y a un innocent en cause. Maintenant, cette hypothèse égare-t-elle réellement Frédéric Larsan? Voilà. Mais Frédéric Larsan a peut-être raison, m'écrirai-je, interrompant Rouletabille. Êtes-vous sûr que M. Darzac soit innocent? Il me semble que voilà bien des fâcheuses coïncidences. Oh, les coïncidences, me répondit mon ami, sont les pires ennemis de la vérité. Qu'en pense aujourd'hui le juge d'instruction? Oh, monsieur de Marquet, le juge d'instruction, il hésite à découvrir M. Robert Darzac sans aucune preuve certaine. Non seulement il aurait contre lui toute l'opinion publique, sans compter la Sorbonne, mais encore M. Stangerson et Mademoiselle Stangerson. Celle-ci adore M. Robert Darzac. Si peu qu'elle ait vu l'assassin, on ferait croire difficilement au public qu'elle n'eût point reconnu M. Robert Darzac si M. Robert Darzac avait été l'agresseur. La chambre jaune était obscure, sans doute, mais une petite veilleuse tout de même l'éclairait, ne l'oubliez pas. Voici, mon ami, où en étaient les choses quand, il y a 3 jours, ou plutôt 3 nuits, survint cet événement inouï dont je vous parlais tout à l'heure. Chapitre 14. J'attends l'assassin ce soir. Il faut, me dit Rouletabille, que je vous conduise sur les lieux pour que vous puissiez comprendre, ou plutôt pour que vous soyez persuadé qu'il est impossible de comprendre. Je crois, quant à moi, avoir trouvé ce que tout le monde cherche encore, la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune sans complicité d'aucune sorte et sans que M. Stangerson y soit pour quelque chose. Tant que je ne serai point sûr de la personnalité de l'assassin, je ne saurais dire quelle est mon hypothèse, mais je crois cette hypothèse juste, et dans tous les cas, elle est tout à fait naturelle, je veux dire tout à fait simple. Quant à ce qui s'est passé il y a 3 nuits ici, dans le château même, cela m'a semblé, pendant 24 heures, si absurde qu'elle dépasse toute faculté d'imagination. Et encore, l'hypothèse qui maintenant s'élève du fond de moi est-elle si anormale, celle-là, que je préfère presque les ténèbres de l'inexplicable? Sur quoi le jeune reporter m'invita à sortir. Il me fit faire le tour du château. Sous nos pieds craquaient les feuilles mortes. C'est le seul bruit que j'entendais. On eût dit que le château était abandonné. Ces vieilles pierres, cette eau stagnante dans les fossés qui entouraient le donjon, cette terre désolée, recouverte de la dépouille du dernier été, le squelette noir des arbres, tout concourait à donner à ce triste endroit, hanté par un mystère farouche, l'aspect le plus funèbre. Comme nous contournions le donjon, nous rencontrâmes l'homme vert, le garde, qui ne nous salua point et qui passa près de nous comme si nous n'existions pas. Il était tel que je l'avais vu pour la première fois à travers les vitres de l'auberge du père Mathieu. Il avait toujours son fusil en bandoulière, sa pipe à la bouche et son binocle sur le nez. « Drôle d'oiseau !» me dit tout bas Rouletabille. « Lui avez-vous parlé ?» demandai-je. « Oui, mais il n'y a rien à en tirer. » Il répond par grognement, hausse les épaules et s'en va. Il habite à l'ordinaire, au premier étage du donjon, une vaste pièce qui servait autrefois d'oratoire. Il vit là, en ours, ne sort qu'avec son fusil. Il n'était même qu'avec les filles. Sous prétexte de courir après les braconniers, il se relève souvent la nuit. Mais je le soupçonne d'avoir des rendez-vous galants. La femme de chambre de Mlle Stangerson, Sylvie, est sa maîtresse. En ce moment, il est très amoureux de la femme du père Mathieu, l'aubergiste. Mais le père Mathieu surveille de près son épouse et je crois bien que c'est la presque impossibilité où l'homme vert se trouve d'approcher Mme Mathieu qui le rend encore plus sombre et taciturne. C'est un bourgeois, bien soigné de sa personne, presque élégant. Les femmes à 4 lieues à la ronde en raffolent. Après avoir dépassé le donjon qui se trouve à l'extrémité de l'aile gauche, nous passâmes sur les derrières du château. Rouletabille me dit en me montrant une fenêtre que je reconnus pour être l'une de celles qui donnent sur les appartements de Mlle Stangerson. Ben, si vous étiez passé par ici, il y a 2 nuits, à 1 heure du matin, vous auriez vu votre serviteur au haut d'une échelle, s'apprêtant à pénétrer dans le château par cette fenêtre. Comme j'exprimais quelques stupéfactions de cette gymnastique nocturne, il me pria de montrer beaucoup d'attention à la disposition extérieure du château, après quoi nous revînmes dans le bâtiment. « Il faut maintenant, dit mon ami, que je vous fasse visiter le premier étage, aile droite. C'est là que j'habite. » Pour bien faire comprendre l'économie des lieux, je mets sous les yeux du lecteur un plan du premier étage de cette aile droite, plan dessiné par Rouletabille au lendemain de l'extraordinaire phénomène que vous allez connaître dans tous ses détails. Ici, un nouveau plan et 6 points numérotés. 1. Endroit où Rouletabille plaça Frédéric Larsan. 2. Endroit où Rouletabille plaça le père Jacques. 3. Endroit où Rouletabille plaça M. Stangerson. 4. Fenêtre par laquelle entra Rouletabille. 5. Fenêtre trouvée ouverte par Rouletabille quand il sort de sa chambre. Il la referme. Toutes les autres fenêtres et portes sont fermées. 6. Terrasse surmontant une pièce en encorbellement au rez-de-chaussée. Reprise du texte. Rouletabille me fit signe de monter derrière lui l'escalier monumental double qui, à la hauteur du premier étage, formait palier. De ce palier, on se rendait directement dans l'aile droite ou dans l'aile gauche du château par une galerie qui venait aboutir. La galerie, haute et large, s'étendait sur toute la longueur du bâtiment et prenait jour sur la façade du château exposée au nord. Les chambres, dont les fenêtres donnaient sur le midi, avaient leurs portes sur cette galerie. Le professeur Stangerson habitait l'aile gauche du château. M. Mademoiselle Stangerson avait son appartement dans l'aile droite. Nous entrâmes dans la galerie aile droite. Un tapis étroit, jeté sur le parquet ciré, qui luisait comme une glace, étouffait le bruit de nos pas. Rouletabille me disait à voix basse de marcher avec précaution parce que nous passions devant la chambre de Mademoiselle Stangerson. Il m'expliqua que l'appartement de Mademoiselle Stangerson se composait de sa chambre, d'une antichambre, d'une petite salle de bain, d'un boudoir et d'un salon. On pouvait naturellement passer de l'une de ces pièces dans l'autre sans qu'il fût nécessaire de passer par la galerie. Le salon et l'antichambre étaient les seules pièces de l'appartement qui eussent une porte sur la galerie. La galerie se continuait toute droite jusqu'à l'extrémité est du bâtiment où elle avait jour sur l'extérieur par une haute fenêtre. Fenêtre 2 du plan. Vers les deux tiers de sa longueur, cette galerie se rencontrait à angle droit avec une autre galerie qui tournait avec l'aile droite du château. Pour la clarté de ce récit, nous appellerons la galerie qui va de l'escalier jusqu'à la fenêtre à l'est la galerie droite, et le bout de galerie qui tourne avec l'aile droite et qui vient aboutir à la galerie droite, à angle droit, la galerie tournante. C'est au carrefour de ces deux galeries que se trouvait la chambre de Rouletabille, touchant à celle de Frédéric Larsan. Les portes de ces deux chambres donnaient sur la galerie tournante, tandis que les portes de l'appartement de Mademoiselle Stangerson donnaient sur la galerie droite, voir le plan. Rouletabille poussa la porte de sa chambre, me fit entrer et referma la porte sur nous, poussant le verrou. Je n'avais pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil sur son installation, qu'il poussait un cri de surprise en me montrant sur un guéridon un binocle. « Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» se demandait-il. « Qu'est-ce que ce binocle est venu faire sur mon guéridon ?» J'aurais été bien en peine de lui répondre. « À moins que ce binocle ne soit ce que je cherche, et que ce soit un binocle de presbyte. » Il se jetait littéralement sur le binocle, ses doigts caressaient la convexité des verres, et alors il me regarda d'une façon effrayante. « Oh, oh !» Et il répétait « Oh, oh !» comme si sa pensée l'avait tout à coup rendu fou. Il se leva, me mit la main sur l'épaule, ricana comme un insensé et me dit « Mais ce binocle me rendra fou, car la chose est possible, voyez-vous, mathématiquement parlant, mais humainement parlant, elle est impossible, ou alors... » On frappa de petits coups à la porte de la chambre. Rouletabille entr'ouvrit la porte. Une figure passa. Je reconnus la concierge que j'avais vue passer devant moi quand on l'avait amenée au pavillon pour l'interrogatoire, et j'en fus étonné car je croyais toujours cette femme sous les verrous. Cette femme dit à voix très basse « Dans la rainure du parquet ». Rouletabille répondit « Merci !» et la figure s'en alla. Il se retourna vers moi après avoir soigneusement refermé la porte. Et il prononça des mots incompréhensibles avec un air hagard. « Mais puisque la chose est mathématiquement possible, mais pourquoi ne la serait-elle pas humainement ?»« Mais si la chose est humainement possible, l'affaire est formidable. » J'interrompis Rouletabille dans son soliloque. « Les concierges sont donc en liberté maintenant ?» demandai-je. « Oui, me répondit Rouletabille, je les fais faire remettre en liberté. J'ai besoin de gens sûrs. » La femme m'est tout à fait dévouée, et le concierge se ferait tuer pour moi. Et puisque le binocle a des vers pour presbyte, je vais certainement avoir besoin de gens dévoués qui se feraient tuer pour moi. Oh, fis-je, vous ne souriez pas, mon ami. Et quand faudra-t-il se faire tuer? Mais ce soir, car il faut que je vous dise, mon cher, j'attends l'assassin ce soir. Oh, 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 vous attendez l'assassin ce soir. Vraiment, vraiment, vous attendez l'assassin ce soir. Mais alors, vous connaissez donc l'assassin? Oh, maintenant, il se peut que je le connaisse. Je serais un fou d'affirmer catégoriquement que je le connais, car l'idée mathématique que j'ai de l'assassin donne des résultats si effrayants, si monstrueux, que j'espère qu'il est encore possible que je me trompe. Oh, là, je l'espère de toutes mes forces. Mais comment, puisque vous ne connaissiez pas, il y a 5 minutes, l'assassin, pouvez-vous dire que vous attendez l'assassin ce soir? Parce que je sais qu'il doit venir. Rouletabille bourra une pipe lentement, lentement, et l'alluma. Ceci me présageait un récit des plus captivants. À ce moment, quelqu'un marcha dans le couloir, passant devant notre porte. Rouletabille écouta. Les pas s'éloignèrent. Est-ce que Frédéric Larsan est dans sa chambre ? Fis-je en montrant la cloison. Non, 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 me répondit mon ami, il n'est pas là. Il a dû partir ce matin pour Paris. Il est toujours sur la piste de Darzac. Monsieur Darzac est parti lui aussi ce matin pour Paris. Tout cela se terminera très mal. Je prévois l'arrestation de Monsieur Darzac avant 8 jours. Le pire est que tout semble se liguer contre le malheureux. Les événements, les choses, les gens. Il n'est pas une heure qui s'écoule qui n'apporte contre M. Darzac une accusation nouvelle. Le juge d'instruction en est accablé et aveuglé. Du reste, je comprends que l'on soit aveuglé, on le serait à moins. Mais Frédéric Larsan n'est pourtant pas un novice. « Ben, j'ai cru, » fit Rouletabille avec une boule légèrement mébrisante, « que Fred était beaucoup plus fort que cela. Évidemment, ce n'est pas le premier venu. J'ai même eu beaucoup d'admiration pour lui quand je ne connaissais pas sa méthode de travail. Elle est déplorable. Il doit sa réputation uniquement à son habileté, mais il manque de philosophie. La mathématique de ses conceptions est bien pauvre. Je regardais Rouletabille et ne pus m'empêcher de sourire en entendant ce gamin de 18 ans traité d'enfant, un garçon d'une 50aine d'années qui avait fait ses preuves comme le plus fin limier de la police d'Europe. « Vous souriez, » me fit Rouletabille. « Vous avez tort. Je vous jure que je le roulerai, et d'une façon retentissante, mais il faut que je me presse, car il a une avance colossale sur moi. » Avant ce que lui a donné M. Robert Darzac, et que M. Robert Darzac va augmenter encore ce soir. Songez donc, chaque fois que l'assassin vient au château, M. Robert Darzac, par une fatalité étrange, s'absente et se refuse à donner l'emploi de son temps. Chaque fois que l'assassin vient au château, m'écriai-je, il est donc revenu ? Oui. Pendant cette fameuse nuit où s'est produit le phénomène. J'allais donc connaître ce fameux phénomène auquel Rouletabille faisait allusion depuis une demi-heure sans me l'expliquer. Mais j'avais appris à ne jamais presser Rouletabille dans ses narrations. Il parlait quand la fantaisie lui en prenait ou quand il le jugeait utile et se préoccupait beaucoup moins de ma curiosité que de faire un résumé complet pour lui-même d'un événement capital qui l'intéressait. Enfin, par petites phrases rapides, Il m'apprit des choses qui me plongèrent dans un état voisin de l'abrutissement, car en vérité, les phénomènes de cette science encore inconnue qu'est l'hypnotisme par exemple, ne sont point plus inexplicables que cette disparition de la matière de l'assassin au moment où ils étaient quatre à la toucher. Je parle de l'hypnotisme comme je parlerai de l'électricité dont nous ignorons la nature et dont nous connaissons si peu les lois, parce que, dans le moment, l'affaire me parut ne pouvoir s'expliquer que par de l'inexplicable, c'est-à-dire par un événement dehors des lois naturelles connues. Et cependant, si j'avais eu la cervelle de Rouletabille, j'aurais eu, comme lui, le pressentiment de l'explication naturelle. Car le plus curieux dans tous les mystères du Glandier a bien été la façon naturelle dont Rouletabille les expliqua. Mais qui donc eût pu et pourrait encore se vanter d'avoir la cervelle de Rouletabille? Les bosses originales et inharmoniques de son front, je ne les ai jamais rencontrées sur aucun autre front, si ce n'est, mais bien moins apparente, sur le front de Frédéric Larsan. Et encore, fallait-il bien regarder le front du célèbre policier pour en deviner le dessin, tandis que les bosses de Rouletabille sautaient, si j'ose me servir de cette expression un peu forte, sautaient aux yeux. J'ai, parmi les papiers qui me furent remis par le jeune homme après l'affaire, un carnet où j'ai trouvé un compte-rendu complet du phénomène de la disparition de la matière de l'assassin et des réflexions qu'il inspira à mon ami. Il est préférable, je crois, de vous soumettre ce compte-rendu que de continuer à reproduire ma conversation avec Rouletabille, car j'aurais peur, dans une pareille histoire, d'ajouter un mot qui ne fût point l'expression de la plus stricte vérité.